Chapitre 15. 18 février. Tu comprends, ma chère Yvonne, que depuis ma dernière lettre, mon humeur mauvaise a eu beau jour pour s'évanouir. Aussi n'en est-il plus question. Le temps avance, avance. Le soleil brille, c'est charmant. Par ce temps radieux, le volnay et chétinier doivent être exquis. Grand-mère écrit qu'il y a des violettes partout, et de loin, je respire les brises tièdes qui font frémir les branches bourgeonnées et apportent le printemps. La vie est vraiment une belle, une bonne invention, et le pessimisme devrait bien porter le deuil de ces illusions, tout de blanc habillées, comme jadis les grands. Et ce serait d'autant plus rationnel pour lui qu'il a la prétention d'être le souverain de notre époque. C'est un souverain dont l'air morne n'est pas fait pour établir le prestige des rois aux yeux des peuples. En regardant cette grande figure grognon, on comprend les émeutes et les révolutions. Tu prétends que je m'amuse à marivauder avec mon esprit moqueur au lieu de me confesser et que mon amour ayant reçu une atteinte, je n'ose l'avouer. N'en déplaise à tes pronostics, il est resté immuable en face des sollicitations, de la persécution, des traîtrises de ma cousine et des hommages d'un gentilhomme que Madame de Ligne eût épousé d'emblée s'il avait mis autrefois à ses pieds comme aux miens les grâces et les séductions de sa personne. Il n'a jamais éclipsé Hervé, crois-le bien. Mais il a jeté quelques troubles dans ma vie morale, parce que la femme est un petit être bien vaniteux et, nonobstant sa finesse, tout disposé à se prosterner devant sa propre puissance. Il est bon de revenir de ses illusions. C'est sain au jugement et à l'âme. J'avais fait la splendide découverte que j'étais aimée et j'éprouvais une pitié attendrie en songeant au sort pénible qui attendait celui dont le cœur se donnait. Car je croyais tout bêtement que j'étais adorée pour mon pauvre petit individu qui se mettait, Dieu et l'amour me pardonnent, en frais de coquetterie. Le soir, j'avais des remords, et le lendemain, je recommençais avec un entrain qui ravissait Madame de Ligne. Elle résolut alors de frapper le dernier coup en permettant une déclaration tête à tête. Depuis une heure environ, j'étais revenu du concours hippique. Pour me remettre des conversations pleines de sel et d'esprit que j'avais entendues, je lisais Molière et j'étais tout à lui quand on m'annonça le comte de B. Son air était absolument aimable, son aisance celle d'un homme sûr de lui, et il me tendit la main de cette façon gracieuse qui consiste à faire croire qu'on a eu le bras cassé par un si terrible accident que les articulations n'ont jamais pu reprendre leur souplesse. La première fois que j'ai vu ce spectacle, j'ai manifesté une grande commisération et je me suis écrié d'un ton compatissant « Oh, comment avez-vous été blessé ?» On m'expliqua que c'était l'usage, probablement, parce que tendre la main naturellement devenait fastidieux et qu'il fallait donner raison au poète qui a écrit « L'ennui naquit un jour de l'uniformité ». Dira-t-on encore que les mondains ne sont pas sérieux quand leurs moindres gestes doivent avoir sur les sociétés une influence morale considérable ? Après la cérémonie, M. de B. s'assit auprès de moi. C'est un esprit qui n'aime pas prendre 5 ou 6 chemins à la fois, et qui ne s'arrêterait pas, comme je le fais si souvent, à examiner avec des extases les mousses du sentier. Il est assurément bien au-dessus de pareilles faiblesses, et il s'avance tout droit vers l'extrémité de l'allée, sans regarder ni à droite ni à gauche, bien sûr qu'aucune branche ne lui fracassera la tête. Du moins, c'était sa pensée avant l'autre jour. « Mademoiselle, me dit-il, je suis autorisé par Madame de Ligne à vous dire que vous pouvez me rendre le plus heureux des hommes. Il est des sympathies auxquelles un instant suffit pour devenir si profondes que le temps certainement ne pourrait jamais rien contre elles. Je vous aime et... » Et il s'interrompit. Peut-être parce que ma mine était fort expressive. Moi qui connaissais la ravissante chanson, je savais bien avec quel accent elle devait être modulée et que, dit autrement, elle n'était que l'insignifiant refrain d'un air très banal. Qu'il faut peu de choses pour enlever à un homme tout son prestige. Mes yeux tombèrent sur une page du volume restée ouverte sur ma table et je m'écriai, comme l'avare soupçonneux, « Ouais, qu'est-ce que cela ?»« Comment ?» me dit M. de B. surpris. Mais aussitôt, se remettant, car il sait que mon langage n'est pas toujours celui de la convention, Il me répéta qu'il m'aimait. Une phrase un peu longue, un peu embrouillée, moi qui aime la netteté, et dite avec une grâce et un air de certifié. Moi qui aime la netteté, et dite avec une grâce et un air de certifié, je suis si sûre d'enlever cette petite, est-ce que je n'arrive pas toujours au bout du chemin, bien tranquillement, sans même qu'une pierre vienne me faire buter ? Pendant qu'il parlait, une bonne odeur de clématite m'arrivait par bouffée. Une brise pleurait très doucement. Les feuilles frissonnaient aux ogives des vieilles fenêtres. Une voix émue et tremblante s'écriait « Claude, m'aimes-tu ? » Aussitôt, s'échappant des lézardes et de la poussière, des sons délicats répétés « Claude, m'aimes-tu ? » Un souffle répondait « Oui !» Et les moindres trous de la vieille chapelle chantaient notre amour vrai et notre sincérité. Mes yeux se mouillèrent. À travers un voile, je vis l'air heureux et triomphant du comte qui croyait fermement que mon attendrissement était son œuvre. « Je savais bien, dis-je avec une émotion contenue, que 5 coqueluchons nous protégeaient, Hervé et moi. » Monsieur de B leva ses sourcils très haut, et ce mouvement était aussi éloquent que si toute sa personne avait sauté jusqu'au plafond. Une branche énorme lui était tombée sur la tête, et à la secousse désagréable se joignait l'étonnement d'une chose qu'il n'avait jamais vue. « Qu'est-ce que ce saint et ce monsieur ?» me dit-il. Il n'y avait plus moyen de reculer. « Hervé, mon fiancé, dis-je bravement, et 5 coqueluchons, le témoin de nos serments. » Sa figure se contracta, et ce fut d'une voix où l'on sentait les sourds grondements d'un fauve agacé qu'il s'écria « Vous êtes fiancé ?» Et madame de Ligne a cru devoir me dire « Attendez, attendez » interrompis-je vivement. « Madame de Ligne et ma grand-mère ne veulent pas de mon mariage et je ne suis fiancée que vis-à-vis de ma conscience. » J'ajoutai mentalement, surtout de mon cœur. Un silence pendant lequel je fus prise d'une immense colère contre lui, encore plus contre ma naïveté qui m'avait fait oublier pendant quelque temps l'irrésistible attrait d'un million. Les faits criaient vengeance et l'exécution suivit immédiatement la pensée. « Madame de Ligne rêvait pour moi, dis-je négligemment, et dans les rêves de ma cousine, titres et armoiries jouent un rôle prépondérant. » « C'est flatteur, me dit-il sèchement, ne sachant encore dans sa déconvenue quel parti il devait prendre. Je le regardai avec candeur et posant la main sur mon livre, je lui dis avec un sourire « Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. » « Je n'aime pas Molière, » me dit-il avec des yeux terribles. « Hervé devrait prendre quelquefois cet air-là. Vraiment, il va bien à un homme. »« Et moi, je l'adore, » dis-je en riant. Puis, me levant, j'ajoutai « Vous voyez quel ménage affreux eût été le nôtre ?» Alors, se décidant à prendre son aventure en homme d'esprit, il répliqua, en souriant, sans aucune conviction, « Mademoiselle, vous m'avez laissé entendre que vous n'étiez dupe de rien. Vous l'êtes cependant, croyez-moi, de votre perspicacité. Certaines femmes sont trop charmantes pour n'être pas toujours très aimées. Je souhaite que ce saint dont vous parliez vous soit toujours favorable. » ajouta-t-il avec dépit. « 5 coqueluchons, dis-je avec gravité. C'est un très grand saint. Je lui demanderai pour vous, monsieur, toutes les grâces spirituelles et matérielles. » Il s'inclina et je lui fis une révérence que madame de Genlis, je le dirai à grand-mère quand je la verrai, n'eut point désavouée. Mes crimes ne sont-ils pas pardonnables? Et la poudre m'aveugle-t-elle pour un temps bien long? Jamais l'amour simple, vrai, d'Hervé n'a brillé d'un éclat plus doux et plus vif à la fois. Je n'essaie pas de t'analyser les sentiments de madame de Ligne, parce qu'il faudrait avoir ce que je n'ai pas, un rare talent de psychologue. Pendant mon récit, elle a dissimulé avec sang-froid ses impressions, jusqu'au moment où j'ai dit que, à la face du comte, du ciel et du monde, j'ai confessé hautement ma foi et mes fiançailles. Elle a pâli et s'est retirée dans sa chambre pour méditer ses chagrins. Depuis 3 jours, elle parle peu, bien que je me mette en frais de grande amabilité. Bah, du moment que je... Mardi soir. Ce matin, j'étais interrompue par une lettre du Volnay. Des nuages tourbillonnent dans mon ciel et je suis furieuse. Ma chère enfant, me dit grand-mère, j'aime beaucoup la constance, quoique les hommes ne la méritent guère. Mais il ne faut pas continuer à croire que nous te permettrons de faire un si mauvais mariage. Pourquoi as-tu refusé ce monsieur ? Nous ne voulons pas, ma petite fille, que tu épouses Hervé. Il ne faut pas être aussi entêté, et quand on est jeune, il faut écouter les gens raisonnables. Je ne trouve pas que ce soit joli de se moquer d'un homme qui demande votre main. Il fallait le remercier. Laure m'a tout raconté, et on ne dit pas non plus à un monsieur qu'on priera un saint pour lui. Adieu, ma petite fille, tu ne dois pas te marier contre mon gré. Vois donc Corinne, Oswald ne se décide pas à l'épouser parce qu'il pensait que ce mariage n'eût pas été dans les idées de son père. Dans ce temps-là, on avait un grand respect filial. C'est un beau sentiment que Madame de Staël a bien exprimé. Précisément, je trouve Oswald imbécile. C'est à s'arracher les cheveux de désespoir de se le voir présenter en exemple, lui et ses sentiments faux. Sans rien dire, j'ai tendu la lettre à Madame de Ligne et j'ai répondu à grand-mère que je ne me marierais pas contre sa volonté, mais que je me vouais au célibat avec manies innombrables pour me consoler. Puis j'ai revêtu mes idées et mon visage d'un crêpe épais. C'est sous ces voiles funèbres que, dorénavant, ma cousine me traînera dans les lieux de plaisir. C'est fini, je n'en démords pas. Et je pense maintenant que c'est une bêtise de porter le deuil de ses illusions en blanc. On saura qu'à la fin d'un siècle de lumière, on en est encore à Oswald et à l'ombre de son père, qui arrive toujours pour détruire le peu de sens commun que possède cet Anglais. Adieu,